Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Avant d'évoquer avec l'écologiste que vous êtes quelques dossiers chauds du moment, quelques questions disons aux députés européens. L'Espagne et la Catalogne s'enfoncent dans la crise et l'Europe regarde sans rien faire. Est-ce que c'est bien normal ?
Non, ça n'est pas normal. Le dossier catalan est un dossier européen. C'est une crise européenne parce qu'à la fois, on voit bien l'absolue nécessité de donner au projet européen une perspective qui évite aux régions parfois la tentative ou la tentation du repli. L'idée que finalement, pour retrouver un projet enthousiasmant, il faut être dans la limite d'une région. Donc il est absolument nécessaire pour l'Europe de redonner une perspective en matière d'investissement, en matière de projet de civilisation, pour qu'on évite ce repli. Et puis, il y a toute la question, évidemment, de la fragmentation de l'Espagne, qui serait une catastrophe pour l'Europe. La tentation, parfois, pour certaines régions plutôt plus riches que les autres, de vouloir plus d'autonomie, mais potentiellement remettant en cause le pacte européen de solidarité qu'on
doit toujours... Caprice de riche, alors. Caprice de riche.
Il y a un peu caprice de riche. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une folie du gouvernement espagnol, d'une sorte de légalisme absolument débile dans la circonstance. On sait à quel point l'alliance du Parti populaire espagnol avec le Parti socialiste espagnol a maltraité le dossier catalan depuis des années. Donc il faut en sortir. Il faut en sortir par la discussion.
Et comment
il faut
alors en sortir par la médiation. Que doit faire l'Europe? Assurer cette médiation.
Médiation.
Va vous dire, si l'Europe se pose en médiateur, ça veut dire qu'on met sur un pied d'égalité les autorités catalanes, les autorités espagnoles, et que donc on accorde d'une certaine manière l'autonomie déjà à la Catalogne.
Mais quand vous avez une crise qui est aussi forte, qui est aussi aujourd'hui polarisée, qui est aussi émotionnelle, il n'y a pas de solution simple. Je veux dire, mettre la Catalogne lui faire perdre son autonomie, mettre sous tutelle la Catalogne, ce que veut faire potentiellement le gouvernement espagnol, c'est une folie quand vous avez autant de Catalans qui aspirent à plus d'autonomie. À l'inverse, tout le discours ambigu de Puigdemont comme patron de la Catalogne, qui joue à dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire cette déclaration d'indépendance, participe de la confusion généralisée. Donc, nous savons que il va falloir donner plus à la Catalogne, notamment sur la reconnaissance d'une identité culturelle beaucoup plus forte. Et en même temps, construire un État fédéral en Espagne. Il n'y a pas d'alternative à l'État fédéral espagnol.
Et donc, c'est à l'Europe de s'impliquer.
C'est à l'Europe de s'impliquer. Elle l'a fait, vous vous souvenez, juste avant le discours clé de Puigdemont, il y a maintenant combien, 15 jours, 3 semaines, où Tusk, le patron du Conseil européen, comme Juncker, le patron de la Commission européenne, avait appelé Puigdemont. Donc, ça veut dire que ça s'était fait avec l'autorisation de Rajoy. Donc, il y avait une forme de médiation. Il faut renforcer cette médiation et pas se dire c'est une affaire interne à l'Espagne, ce serait une catastrophe pour l'Europe.
Yannick Jadot, on change de sujet. Ce mercredi 25 octobre, les États membres de l'Union européenne vont devoir se prononcer pour ou contre le renouvellement de la licence du glyphosate. C'est cet herbicide controversé. Est-ce que vous sentez qu'il y aura une majorité pour dire stop ?
Il y aura une majorité pour dire stop à une prolongation de 10 ans.
Est-ce suffisant ?
Eh ben non.
Faut-il arrêter tout de suite ?
La question, c'est d'arrêter tout de suite.
Mais comment alors ? Parce que les agriculteurs qui mettent du glyphosate pour se servir d'herbicide, qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Ce que nous proposons, le Parlement européen a voté la semaine dernière, il va encore voter cette semaine, c'est d'organiser la sortie du glyphosate en 2 ou 3 ans. Donc, vous savez, quand vous avez fait une interdiction, de toute façon, tout ce qui est
donc
en circulation...
Donc, 2020, c'est stop.
C'est 2020, c'est stop. On a un enjeu de santé majeur autour du glyphosate. La plupart, le gros de tout ce qui a jamais été vendu de Roundup sur les 40 dernières années, c'est dans ces dernières années. Ce qui veut dire qu'il y a une utilisation exponentielle du Roundup qui est totalement folle, qui génère des maladies. On en a partout dans notre organisme.
Mais vous entendez les agriculteurs ? Deux tiers des agriculteurs français qui utilisent aujourd'hui le Roundup.
Mais ils ne l'ont pas utilisé éternellement. L'agriculture n'est pas née sur les berges du Nil avec le Roundup.
Certes, mais vous leur demandez de faire quoi maintenant, alors ?
Je l'ai dit.
D'arrêter avec les herbicides ?
On a 10 milliards d'euros qui viennent de subventions publiques, d'aides publiques qui viennent sur l'agriculture française tous les ans. Est-ce qu'on peut enfin faire en sorte que cette aide publique n'aille pas plus vers ceux qui utilisent du Roundup et moins vers ceux qui n'en utilisent pas ? Il faut inverser la tendance. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui utilisent du Roundup. 10 jours avant la récolte, ils se mettent en combinaison totale avec un masque. 10 jours avant la récolte pour tuer la céréale, pour qu'elle soit plus facile à traiter après. Et c'est nous qui allons ingérer cette céréale. Oui. C'est totalement absurde. Vous avez des... Plutôt que de retourner un peu la terre, maintenant, on utilise cet herbicide total parce que c'est effectivement facile. Mais à partir
parce
du
que
moment...
c'est efficace. Les agriculteurs disent qu'il n'y a rien de plus efficace
mais
que
c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est efficace. Mais on a à une époque le DDT c'était efficace. Oui. À une époque, on considérait que l'amiante c'était efficace.
Mais alors quel
modèle d'agriculteur ? À partir du moment où c'est une saloperie, il faut arrêter.
Mais on revient à quoi ? On revient au labour ? On fait le désherbage mécanique, qui peut aussi poser des problèmes, parce que agriculteur qui passe son tracteur éternellement dans son champ,
mais
ça fait des émissions
de gaz à effet de serre. C'est ce qu'a toujours fait l'agriculture. Un peu de rotation des cultures pour éviter l'épuisement du sol. Vous retournez le haut de la terre, justement, pour faire en sorte que vous enleviez l'herbe et qu'on n'utilise pas un herbicide total. C'est un enjeu social aussi. Aujourd'hui, incontestablement, quelqu'un qui veut exploiter une ferme dans la Beauce en céréales, il fait 100-150 hectares à arroser de Roundup en une journée. S'il fait un peu de labour, il met 5 à 6 jours. Et ben justement, ça permet de recruter.
Ouais.
Ça permet d'avoir pas simplement
a-t-il
un type.
A-t-il les moyens de recruter ?
Mais bien sûr, y compris dans la Beauce. La valeur ajoutée d'un céréalier de la Beauce, c'est l'aide publique qu'il reçoit de nous tous. Chacun, vous et moi, et chaque Française, chaque Français, met 130 à 140 euros d'argent pour l'agriculture tous les ans. D'impôts. Oui. On doit pouvoir exiger que, à la fois, il y ait plus
c'est
de paysans
énorme.
Dans nos campagnes, qu'il y ait une alimentation saine et l'environnement protégé. L'intérêt des paysans, c'est le nôtre.
Est-ce que le gouvernement français est assez clair sur cette question?
Non, il n'est pas clair. Hulot est très très clair. Il veut aller vers l'interdiction le plus rapidement possible, mais vous savez que Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, attend matin, midi et soir ses instructions de la petite direction de la FNSA pour savoir de quoi penser.
Alors,
c'est un problème.
À quoi sert le ministre de la Transition écologique dans
mais
ce cas ?
J'espère qu'il va gagner son arbitrage.
Mais
vous avez plein
chose.
D'agriculteurs.
Mais c'est juste l'alibi écolo du gouvernement de dire « Ah ben il est là », il dit « Ah ben non, il faut interdire le plus vite possible ». Mais un ministre de l'Agriculture qui dit l'inverse.
On verra quel sera l'arbitrage. Ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs mois, Nicolas Hulot se bat avec toute sa détermination, qu'il est opposé au reste du gouvernement qui est parfois gangréné par les lobbies et que Nicolas Hulot est un peu utilisé comme la carte magique du gouvernement. Y compris les écolos, j'allais dire, se réduisent un peu leur niveau de critique vis-à-vis du gouvernement parce qu'il y a leur copain Nicolas Hulot qui est là.
Vous tapez moins fort parce qu'il y a Hulot dans le gouvernement.
Je pense que oui. On réduit un peu.
Vous auto-censurez.
On s'auto-censure parce qu'il y a notre copain qui est là. Mais là, c'est notre santé qui est en jeu. Quand c'est le CETA qui est mis en œuvre, c'est pas notre santé, c'est l'environnement, c'est notre santé et c'est l'agriculture et c'est notre capacité à décider. Quand il s'agit des perturbateurs endocriniens, là encore, c'est notre santé. Quant à Bruxelles, ce gouvernement soutient plus le nucléaire que les énergies renouvelables, c'est tous les emplois de la transition énergétique qui sont perdus. Donc moi, j'attends de Nicolas Hulot qu'il arrive à convaincre Emmanuel Macron et le reste du gouvernement qu'il y a des agriculteurs magnifiques qui font sans Roundup et qu'il y a des villes qui font sans énergie fossile ou nucléaire.
Merci Yannick Jadot d'être venu ce matin sur RFI Euro, député écologiste invité de RFI ce matin.